Et priorité santé avec Suno Assurance et souscrivez à l'assurance décès pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Combien d'heures, combien de temps passons-nous chaque jour sur nos téléphones à consulter nos messages, à suivre l'actualité en temps réel, à surfer sur les réseaux sociaux? Combien de temps sur l'ordinateur, outil de travail? Mais pas seulement, on peut aussi se demander depuis combien de temps nous sommes-nous vraiment coupés, complètement passés d'un téléphone portable pendant au moins 24 heures. Toutes ces questions, elles sont liées à notre sujet du jour, l'addiction aux écrans. Comment déterminer le point de bascule, ces comportements et habitudes qui montrent que l'usage de ces objets connectés est devenu problématique? Est-ce qu'il y a un âge pour être accro aux écrans? Qu'est-ce que cela implique en termes de qualité du sommeil et au-delà, en termes de qualité de vie? Pour expliquer cette envie irrépressible d'interrompre une activité pour taper son code d'accès et prendre connaissance des derniers messages, parfois complètement inintéressants. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se ressaisir malgré les remarques ou reproches de l'entourage? Est-ce que la crise sanitaire, avec la mise à distance, la réduction des rencontres, le développement du télétravail, est-ce que tous ces éléments propres à la période actuelle n'ont pas favorisé les conduites addictives et y compris un usage exagéré, immodéré et pourquoi pas toxique des écrans? Autant de sujets que nous abordons aujourd'hui dans Priorité Santé. Avec l'Organisation mondiale de la santé qui conseille de construire de bonnes habitudes en matière d'usage des écrans, les bannir avant l'âge de 2 ans, en limiter strictement l'utilisation jusqu'à 5 ans, expliquer, lutter contre l'addiction. Et avec nous aujourd'hui en studio, Dr Pierre Polomeni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue responsable du centre Phoenix Meld, spécialisé dans les comportements addictifs chez les adolescents à Genève. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Cameroun le docteur Félicien Tonnet, médecin psychiatre, pédopsychiatre, directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. Et en fin d'émission, nous parlerons activité physique santé avec la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Derrière l'expression addiction aux écrans, on peut ranger beaucoup de choses, hein, docteur Pierre Polomeni. L'objet, les pratiques, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ne pas pouvoir lâcher l'appareil. Donc pour commencer, définir cette notion de dépendance lorsque l'on parle d'objets connectés, finalement pour que tous les usagers ne se posent pas la question en disant « est-ce que moi aussi, d'une certaine manière, je suis malade de mon téléphone ?»
Oui, vous posez dès le départ une question importante et complexe. Il n'y a pas de définition encore très précise de ce problème-là. Vous savez qu'on parle de cyberaddiction. Les organisations internationales parlent de gaming disorder, le désordre lié au jeu. Et en fait, on a plutôt tendance maintenant en addictologie de se baser, comme dans toutes les addictions, sur les conséquences. Mmh. Parce que l'observation, effectivement, des comportements, on voit qu'on peut être accroché à son téléphone, à sa PlayStation, pour pas la nommer, à sa télé, à son ordi. Donc déjà, il y a plusieurs modes d'entrée. Et ensuite, dans ce qu'on va chercher dans les outils, il y a du jeu en ligne ou du jeu en direct, il y a des chats, il y a des réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a des séries. Donc on voit qu'il y a une multitude. C'est d'ailleurs, ça fait partie de l'addiction. Il y a une multitude de choix extrêmement passionnantes qui fait qu'on construit sa vie beaucoup autour de ça. Un des jeunes que je voyais récemment me disait « Mais que voulez-vous que je fasse de tout ce temps ?»« Que voulez-vous que je fasse de tout ce temps ?» Et là, effectivement, les écrans et Internet, etc., et la télé remplissent notre existence. Et à un moment, je vous disais, en tant qu'addictologue, on se dit « Jusqu'où ?» Notre existence doit être centrée sur un seul type de comportement. À quel point est-ce qu'on respecte encore sa famille, le fait d'aimer et d'être aimé, le fait de s'occuper de son corps? Et donc ces conséquences-là, lorsqu'elles émergent, nous font penser qu'il y a un problème. Alors on ne sait pas bien le nommer, mais on sait maintenant précisément à quel point ça peut être toxique, votre mot est tout à fait juste, pour une personne et son entourage.
Est-ce que vous avez gradué différents niveaux de dépendance?
Alors, On préfère une vision individu par individu. Il y a des chiffres, hein, bien sûr, vous les avez trouvés. On sait que, on dit que 4% des usagers ont un usage problématique et qu'il y aurait 1% des personnes dépendantes. Mais en fait, le nombre d'heures, par exemple, passées sur écran, qui est une question que posent souvent les parents ou les personnes concernées, n'est pas un critère suffisant. La question des dépendances, des conséquences est donc importante. La question des moments, un peu comme d'autres addictions. C'est pas pareil si on commence à aller sur son écran dès le matin ou si on y va plutôt le soir pour se détendre.
Donc, comme pour le tabac, la première cigarette.
Exactement.
À quel moment ? Pierre, docteur Polomeni, alors vous prenez en charge particulièrement les adolescents. Est-ce que vous diriez que c'est une question aussi générationnelle ?
Alors, je pense que par génération, il y a des modes d'usage qui changent. Parce que je travaille aussi dans une entreprise en région parisienne qui est qui utilise énormément les écrans, les téléphones, etc. Et donc là, je vois une autre population, l'utilisation des travailleurs, qui, dans le cadre de leur travail, sont déjà 8 heures sur écran, ce qui est déjà beaucoup physiquement, et qui, le soir, peuvent se détendre en utilisant l'écran autrement. Donc on voit qu'il y a par génération des modes d'usage. Et pour le coup, par génération, il y a un mode d'abord qui est différent. Pour l'adolescent, il faut être particulièrement attentif du fait du risque de déscolarisation et le fait de passer à côté d'un certain nombre de choses indispensables. Mais par contre, pour les adultes, il y a effectivement d'autres types de risques physiquement et puis passer à côté aussi de sa vie familiale.
On parle face à l'addiction de personnes à risque. Est-ce que d'après vous, docteur Polomeni, certains troubles antérieurs peuvent augmenter les risques, en fait, augmenter la vulnérabilité ?
Oui, clairement.
Est-ce qu'on a, comme dans certains phénomènes, une tendance à la multi-addiction, par exemple ?
Oui, oui, absolument. On aurait du mal à définir un futur toxicomane type.
Ça,
on a essayé. Et en fait, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, toi, à 5 ans, plus tard, tu seras addict. Ça serait très, très, très maladroit de dire ça. Par contre, on voit bien cliniquement, quand on discute avec quelqu'un qui a vraiment une dépendance, que dans son histoire, on retrouve un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer, peut-être pas justifier, mais en tout cas expliquer qu'il en soit là aujourd'hui. Et effectivement, même si on se penche sur le côté un peu neurobiologique, la façon dont la dopamine, la façon dont il active son circuit du plaisir, on voit bien qu'il a une espèce de prédisposition à l'utiliser de façon, entre guillemets, artificielle. Et donc, non seulement il faut l'aider pour la période qu'il traverse là, il faut aussi l'aider pour la suite.
Encore faut-il le savoir, la prise de conscience, elle vient d'où en général ? Du futur patient lui-même, docteur Polomeni, que vous allez prendre en charge en psychiatrie, addictologie, ou de la famille, des parents dans la plupart des cas ?
Là, clairement, il y a une différence liée à l'âge, vous le devinez bien. La plupart des patients que je vois en ce moment, adolescents, c'est les parents ou le milieu scolaire qui alerte.
Est-ce qu'il y a un conflit forcément à la clé ? Est-ce que finalement, c'est parce qu'ils sont à bout, les parents ? C'est quoi qui les motive ? C'est davantage l'inquiétude ou c'est davantage une situation conflictuelle ?
C'est quand même beaucoup conflictuel dans les situations que je vois. Je pourrais même dire qu'une fois sur deux, c'est la violence qui est le motif de consultation.
On peut dire que ces objets connectés peuvent gâcher la vie des familles.
Oui, oui. Ils semblent indispensables à la vie des jeunes. Et donc, une intervention familiale qui est pourtant nécessaire est forcément vécue comme répressive. Et l'adolescent se met en lutte contre ce cadre qui doit être imposé. Et donc, ce conflit-là est souvent une des causes de consultation.
Confusion entre la bienveillance et la censure.
Oui.
C'est le propre de l'adolescence.
Oui.
Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs pour comprendre concrètement les conséquences, on va dire, de ces connexions dangereuses.
Priorité santé sur RFI.
Premier auditeur en ligne, on part pour la République démocratique du Congo. Kisangani, retrouver Emmanuel. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Alors Emmanuel, vous avez 28 ans, vous avez un très beau métier, celui d'avocat. Et on va dire pour vous, eh bien aujourd'hui, votre téléphone, vous avez l'impression, le sentiment qu'il prend trop de place dans votre vie. C'est bien ça ?
Oui, évidemment madame. Je suis maître Emmanuel Bachalé. Je vis dans la ville de Kisangani, à l'est de l'RDC. En fait, mon problème est que j'ai développé une sorte d'addiction il y a quelques temps. Donc, comportement qui consiste par le fait pour moi d'être beaucoup plus attaché avec mon téléphone toute la journée. Et des fois même, il m'arrive que je sois concentré au téléphone, même pendant l'audience, dans la salle d'audience, bien sûr. Et une fois, l'un de mes confrères du cabinet, d'ailleurs, a eu à me reprocher sur ses comportements par le fait que j'étais beaucoup plus concentré dans mon téléphone pendant que nous étions à la barre.
Emmanuel, donc ça vous perturbe, y compris pendant l'exercice de votre profession. Vous consultez quoi ? Un peu tout et n'importe quoi ou des choses précises qui vous sont utiles ? Ou vous, on va dire, vous allez naviguer un peu comme ça, ça vous allez être attiré par une image, par une autre. Comment ça se passe, vos moments où vous surfez ?
Bon, le problème, c'est que je suis abonné dans plusieurs pages. Je suis abonné dans plusieurs pages et la majorité de mes communications se font par les réseaux sociaux. Donc, très souvent, je m'échange trop avec la famille, les amis, les clients sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a également ceux qui m'envoient des mails. Donc, le fait pour moi de pouvoir être un peu détaché ou bien éloigné de mon téléphone, c'est pas récurrent. C'est ce qui me rend un peu inquiet. Et à part cela, madame, je suis aussi beaucoup plus attaché à mon ordinateur. Et je prends trop du temps. Et il arrive, des fois même, si mon téléphone est en charge, j'ai toujours du mal à s'y porter.
C'est-à-dire que quand votre téléphone risque de s'éteindre, ça vous angoisse ?
Ça m'angoisse certainement, même s'il est éteint et qu'il est en charge. Donc, ça me dérange, ça m'angoisse. Je vois, je suis en train de rater le message, je suis en train de rater l'actualité, et que je suis en train de rater même d'autres appels.
Alors,
voilà pourquoi je...
Vous avez peur d'être dans la dépendance, c'est bien cela, Emmanuel ?
C'est évidemment ça, ma question d'ailleurs.
Oui.
C'est ça mon inquiétude également, ma question. Si je vous ai contacté, c'est pour que vous puissiez m'orienter sur comment faire pour m'en sortir de cette dépendance ou de cette addiction.
Docteur Pierre Polomeni, on entend Emmanuel, il dit qu'il y a un problème, mais en fait on a l'impression qu'il est impuissant face à ce problème. Il a cerné, téléphone éteint, il angoisse, ça l'empêche de bien travailler, son entourage lui fait des reproches. Il est en fait impuissant. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'aider ?
Oui, en l'entendant, en l'écoutant. Donc bonjour Emmanuel. En l'écoutant, je vois bien qu'il est aux frontières. Il est à la frontière d'une dépendance pour laquelle il pourrait encore avoir une capacité de réglage par lui-même et une dépendance qui nécessiterait une intervention extérieure. Alors évidemment, je ne connais pas Emmanuel, mais une des questions qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que vous avez eu dans votre enfance, dans votre adolescence, des addictions, celle-là ou d'autres, ou plus exactement, depuis quand êtes-vous accroché comme ça à votre écran ? Parce qu'en fonction de ça, peut-être on pourrait se dire que soit vous pouvez vous-même commencer, puisque vous en êtes bien conscient, commencer à vous donner vous-même une hygiène de vie, dirais-je. Il faut dire que dans les addictions, contrairement par exemple au problème avec un virus par exemple, dans les addictions on a toujours quand même une capacité de choix. On a une capacité de choix. Des fois on est impuissant, des fois on a l'impression d'être balayé, d'être esclave, mais quand même, on ne peut pas écarter le fait que soi-même on a son mot à dire dans l'histoire qu'on vit. Donc là peut-être qu'Emmanuel a son mot à dire sur son histoire. Et s'il voit qu'au bout de 6 mois, il reste incapable de modifier son comportement, il peut demander à d'autres de l'aider, voilà, sa famille, des amis, ou éventuellement un soignant.
Est-ce que vous arrivez, Emmanuel, par exemple, à dire le soir, j'imagine, vous n'êtes pas chirurgien, vous n'avez pas besoin d'être joint en urgence entre 21h et 6h du matin, est-ce qu'à ce moment-là, vous arrivez à éteindre votre téléphone, à le mettre dans une autre pièce, manger, boire avec des amis et aller vous coucher sans le consulter ? Est-ce que vous y arrivez ?
Non, non, pas très souvent.
Est-ce que vous avez envie d'essayer ? Je ne dis pas que vous allez réussir. Je vous demande, est-ce que vous imaginez que vous pourriez essayer ?
Bon, ce n'est pas un problème. Si ça sert à une solution, je peux toutefois essayer.
faire des petits moments comme ça, de pause. Hein. On imagine, quand on est dans un avion, on ne peut pas téléphoner. Quand on est dans un aéroport, on ne peut pas fumer. On s'y soumet. Est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça? Je me tourne vers le docteur Polomeni.
Oui, moi, je valide tout à fait cette idée. C'est vraiment ce que j'appelle une auto-intervention sur sa propre vie. Par contre, un des petits trucs de base en addictologie, c'est qu'il faudrait essayer de naturellement de remplacer ces moments-là par d'autres moments qui donnent un peu de plaisir. Mmh. Alors c'est un peu idéal, mais en réfléchissant peut-être pas si longtemps, il s'agit pas de se mettre un mur. Le mur, on n'aime pas ça. L'être humain, il n'aime pas ça. Mais si on dit, bon, je le pose, je me fais du bien, on est conscient qu'on se fait du bien, et tant qu'à faire, on va encore se faire encore plus de bien en faisant une autre chose, un peu à côté,
qu'on aime.
Un peu agréable. Mmh. C'est ce côté de la dérivation, dériver un peu la pulsion.
Et ce temps, il est bonifié en quelque sorte.
Voilà, on se donne du temps pour soi et avec un peu de plaisir.
On vous remercie infiniment, Emmanuel, pour votre témoignage. On va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On retrouve Hervé. Hervé, bonjour.
Oui, bonjour, Caloureni.
Alors, vous êtes carrément accro au téléphone. Si je le dis, c'est parce que vous avez employé vous-même cette expression quand on a préparé l'émission. Accro à son téléphone à 28 ans, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, bon, effectivement, j'ai dit que je suis accro, je n'arrive pas à déposer mon téléphone. Même souvent, je disais à l'église, je ne peux pas le déposer 2 minutes, je le manipule même à l'église, même devant la télé. Bon, l'entourage aussi m'a parlé, mais je n'arrive toujours pas, à m'en séparer vraiment. Voilà, c'est ce qui m'amène à ma question, comment revenir dans le monde réel? Comment laisser le virtuel et puis voilà, et pouvoir revenir dans la vie réelle et voilà.
Vous avez l'impression d'être à côté de votre vie, ça perturbe vos études, ça perturbe votre sommeil, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je dors pratiquement pas. En 30 minutes, je me réveille par réflexe et puis je touche le téléphone pour voir. Et quand je suis dessus, je me rends même pas compte du temps passé. Je vois que j'ai carrément fait 2-3, souvent 6 heures dessus sans autre chose. Voilà, ça perturbe ma vie, ça perturbe mes études et tout ça.
Vous en parlez très bien, Hervé. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez essayé des trucs pour arrêter ou pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à passer le cap?
Non, j'ai pas encore réussi. J'ai essayé souvent d'éteindre, mais je n'arrive pas.
Quand vous dites « je n'y arrive pas », ça veut dire quoi? Votre doigt, il n'arrive pas à appuyer sur le petit bouton sur le côté?
Voilà, le doigt n'arrive pas.
Oui, c'est comme quand on n'arrive pas à poser la tablette de chocolat, ça arrive aussi, ce sont des choses qui arrivent. Docteur Pierre Polomeni, on peut avoir de la peine à le croire, hein, dire on n'arrive plus à dormir, on saute des repas, et pourtant c'est quelque chose que vous voyez vraiment en consultation.
Oui, alors quand j'entends ce témoignage, il y a 2 mots qui me viennent en tête. Le mot nomophobie,
ouais.
No mobile phobie.
Nouvelle phobie technologique.
Voilà. Tout à fait, le fait de ne pas pouvoir se passer de son téléphone. Donc c'est ce terme qui me vient en écoutant ce témoignage. Et 2e mot qui me vient, c'est sevrage. Mmh. Là, clairement, bon, évidemment, j'en parle en connaissant de quoi je parle, évidemment, mais le fait est qu'on a envie, en écoutant Hervé, de proposer des techniques de sevrage.
Mais donc ça veut dire, est-ce qu'on peut connaître la même sensation de manque qu'on a face à des substances?
Absolument.
Quand on arrête de téléphoner?
Absolument. Alors, surtout que dans les symptômes de manque, il y a l'irritabilité, il y a un petit peu de tremblement, il y a des petites transpirations, etc.
On est dans le symptôme.
On est exactement là-dedans. Mmh. Et donc, la gestion du sevrage, dans sa situation, enfin, dans la façon qu'on a de voir les choses, elle est individuelle. Il faut voir à quoi il ressemble, Hervé, comment organiser un petit peu. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement, d'un cadre, peut-être de médicaments? Je ne me rends pas compte, mais clairement. Voilà.
Hervé, vous faites des études?
Oui, je suis en 6e année de médecine.
Alors, vous êtes dans le milieu médical. J'imagine que vous pourriez trouver quelqu'un qui pourrait vous orienter, justement, trouver un psy lors de vos stages, aller voir dans un service pour en parler et parler de cette possibilité du sevrage. Vous aviez imaginé, Hervé, qu'il faille en aller jusqu'à, justement, des techniques comme le sevrage, des méthodes comme le sevrage?
Oui, bon, je me disais que si... Je cherchais effectivement des techniques pour m'en passer, pour me sévrer, pour éviter le téléphone, ne serait-ce qu'une heure de temps par jour pour un devis. Mmh. Voilà.
pour commencer. On vous remercie infiniment. Hein. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Priorité Santé, docteur Paul Omeyni. On va se retrouver juste après une respiration musicale. On va continuer de parler, bien sûr, de cette addiction aux écrans juste après. Stromae et son Carmen.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime.
Priorité santé sur RFI, usage problématique, addiction, dépendance aux écrans. Notre sujet du jour. Avec, pour répondre aux questions des auditeurs, notre invité en studio, le docteur Pierre Paul Omeyni, psychiatre, addictologue, responsable du centre Phoenix Mel de Genève. Est-ce que vous avez perçu, docteur Paul Omeyni, dans votre pratique, une réelle évolution en termes de motifs de consultation, on va dire, l'arrivée en force de ces objets connectés? Quantitativement, est-ce que vous le percevez ou c'est pas vraiment le cas? Il y a toujours, on va dire, les fondamentaux. Je pense bien sûr aux substances, éventuellement aussi les comportements alimentaires, les grandes problématiques de l'adolescence.
Oui, ça progresse. Alors, il y a quelques éléments. D'abord, le fait que ça apparaisse dans les classifications internationales, celle de l'OMS, l'Organisation de la Santé, elle va être publiée en janvier 2022. Donc, le gaming disorder, on est donc le moins qu'on puisse dire dans l'actualité. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose maintenant. Deuxièmement, la montée en puissance de tous les réseaux. Donc là aussi, on suit la façon dont Facebook, etc., grignote petit à petit notre espace vital. Le confinement, je suis obligé d'en parler un petit peu, mais clairement, ça n'a pas aidé. Donc, on voit depuis l'émergence d'Internet, l'émergence des grands, des majors de cette industrie, qui est addictogène. N'oublions pas ça. C'est que leur métier, c'est de fabriquer du chiffre d'affaires et des clients. Donc, on est parfois juste des petits enfants face à ces grandes machines. Donc là aussi, c'est pas seulement une orientation individuelle, c'est qu'on est sommé de rentrer dans un cadre général dans lequel la vie, c'est les smartphones, les vidéos, les chats, les réseaux sociaux. Donc entre cette évolution individuelle et cette offre, voire cette injonction, on est effectivement dans une augmentation marquée.
Alors d'autres auditeurs en ligne, on va retrouver maintenant Fatoumata, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes en ligne du Mali de Bamako. Fatoumata, on peut le dire, vous aussi, inséparable de votre téléphone.
Oui.
Alors ça se passe à tout moment de la journée, il est toujours avec vous?
Oui, juste quand le téléphone est en plat.
Sauf quand il est en train de se recharger. Vous allez sur quoi comme type de contenu sur ce téléphone?
Bon, il y a des gens qui ont besoin de moi. Et aussi, il y a aussi des jeux vidéo. Je trouve du plaisir à me connecter aussi.
Oui.
Oui, oui. Bon, il y a pas mal de jeunes filles qui ont besoin de moi pour les conseiller.
On vous entend mal, Fatoumata. Vous pouvez parler plus près de votre téléphone. Moi, j'ai une question. Vous nous appelez pour parler de ce problème de téléphone. Je vais vous dire pourquoi vous nous appelez. Ça vous gêne? Ça vous rend malheureuse d'être trop accrochée à ce téléphone?
Oui. C'est ça, parce que je suis tout le temps près de mon téléphone, je me connecte, je fais des jeux vidéo. Il y en a aussi la nuit, je n'arrive pas à dormir.
Vous n'arrivez pas à dormir et vous avez l'impression que ça vous a coupé de certains amis, parfois de votre famille. Des fois, vous n'êtes plus là, en fait, pour la vraie vie.
Oui, exactement.
Alors, trop de consommation pour Fatoumata. Est-ce qu'on peut parler d'une addiction, un impact sur le sommeil, sur le lien social, ou c'est difficile à déterminer, docteur Polomeni?
Oui, en écoutant ce témoignage, on sent qu'il doit y avoir une addiction. Alors, chaque témoignage évoque en moi des réactions, c'est normal. Et là, je suis un peu préoccupé et intéressé par Fatoumata. J'ai très envie de discuter avec elle en tête à tête. Enfin, je peux pas, bien entendu, mais j'ai très envie de réfléchir avec elle sur la façon dont s'oriente sa vie en ce moment. Il y a des moments de sa vie où on est, peut-être on se trompe de cible, on se trompe d'orientation, on est un peu trop préoccupé. Je ne sais pas bien. Et je sens que Fatoumata, qui a l'air d'avoir aussi une capacité d'aide et d'affection avec les autres, là, elle est peut-être en train de perdre quelque chose qui est très important pour elle, dans son regard des autres vers elle et réciproquement. Et moi, j'ai très envie de proposer à Fatoumata de pouvoir parler à quelqu'un de qu'est-ce qui lui arrive. Ça, c'est un peu ça que ça m'évoque. Quelqu'un qui est en train de dans une période de vie que je ne connais pas, peut-être de s'éloigner un peu de ses fondamentaux. Donc, j'ai très envie de dire, oui, il y a ce risque de la dépendance, mais peut-être que la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de moi en ce moment?
Fatoumata, est-ce que vous vous sentez capable d'aller en parler, par exemple, à une très bonne amie?
Non, pas que
Mais la honte, on le dit toujours. Hein. Alors ça, si je prends pas beaucoup de position dans cette émission, mais là, je vous le dis, la honte, ça ne sert à rien. Hein. C'est à part s'attirer des ennuis. La honte, c'est une invention qui est faite pour nous rendre malheureuses. Mais justement, c'est ça, avoir confiance en un ami. Voilà, lui dire, voilà, j'ai un problème. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça se trouve, ce sera un éclat de rire. Elle dira, bah, on va aller se balader ensemble. Tu vas poser ce téléphone, on va passer à autre chose. La honte, non. Alors qu'en parler, vous avez des amis, Fatoumata, non, autour de vous?
Oui.
Des bonnes amies?
Oui, j'ai des bonnes amies.
Docteur Polomeni, qu'est-ce que vous pouvez le dire pour oui. Il y a besoin d'un encouragement, là, parce que Fatoumata, oui. Elle a envie.
Complètement. Ça renforce un peu l'impression que j'avais en vous écoutant. Je crois qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que vous puissiez vous éloigner de cette addiction. Il faut effectivement en parler à quelqu'un. A priori, d'abord un ami et éventuellement un soignant, mais un ami, ça serait pas mal. Mais mon idée, c'est vraiment essayer de parler d'autre chose. C'est un peu ça que je vous glisse comme idée. C'est que, oui, le téléphone, il y a un problème, mais peut-être essayer de parler d'autre chose. Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie en ce moment? Pourquoi vous avez besoin de vous replier comme ça, alors que vous êtes peut-être quelqu'un de très ouvert, de très spontané, de très vivant? Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça à partager et à penser avec des amis d'abord et des soignants peut-être après.
On remercie beaucoup Fatoumata pour son témoignage. Excellente journée à Bamako. On part pour le Bénin. Retrouver Rigobert. Bonjour Rigobert.
Bonjour Priorité Santé.
23 ans, un jeune. Bonjour, quelle énergie. Alors vous passez trop de temps sur votre téléphone, vous aussi. Ça sert à quoi? C'est un loisir ou c'est un peu plus qu'un loisir?
Madame, je n'arrive pas à l'expliquer parce que je suis trop accro aux écrans, ouais. Mon téléphone, de mon smartphone. Je passe trop de temps à être connecté, à être de regarder mon téléphone, du coup, mon entourage se moque de moi. Des fois, il faut dire, voilà, Rigobert, tu es trop collé, tu es trop attaché à ton téléphone, tu es en train de fouiller tout ça dans ton téléphone, mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien, peut-être ça peut y avoir des conséquences néfastes sur ta santé à la longue. Voilà, justement, pour ça, je me rends bien. Savoir s'il peut y avoir des conséquences après à la longue.
Est-ce qu'il vous arrive de sauter des repas à cause de ça?
Pardon?
Est-ce qu'il vous arrive de sauter des repas, d'oublier de manger parce que vous êtes complètement, comme on dit, scotché au téléphone?
Exactement. Même pour manger, c'est difficile pour moi, madame, je l'avoue. C'est difficile pour moi quand je suis connecté, même si j'ai faim, j'oublie souvent de prendre mon repas. Voilà, même mes parents m'insultent pour dire, voilà, ça, tu ne veux pas manger, tu es tout le temps dans ton téléphone, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas bien, tout ça. Vraiment, c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas.
Vous n'arrivez pas, est-ce que vous avez essayé, Rigobert? Vous avez essayé quoi exactement?
Bon, j'essaie souvent de d'éviter ça, mais j'y arrive pas, quoi. Je n'arrive pas à l'éviter, quoi.
D'accord. Ce que vous nous expliquez, Rigobert, ça nous rappelle pas mal ce que nous a raconté tout à l'heure Hervé, docteur Pierre Polomeni. L'envie de prendre de la distance avec l'objet, mais l'incapacité de passer à l'acte, c'est un petit peu la clé, hein. Peut-être encore, là encore, conseiller d'y aller par palier.
Oui, alors, il y a une mini-question, c'est est-ce que vous avez un travail ou une activité?
Ouais, j'ai un boulot,
Et c'est quoi ce travail?
J'ai une quincaillerie, ouais.
Et pendant que vous êtes à la quincaillerie, vous pouvez continuer d'être sur votre téléphone?
Oui.
Est-ce que des fois, justement, les clients, vous n'êtes pas trop là pour eux parce que vous êtes sur le téléphone?
Je suis tout le temps dans mon téléphone, même s'il y a un client, c'est-à-dire que moi, je le gère. Et puis, souvent, c'est quand il n'y a pas aussi de clients, il n'y a pas assez de clients.
Ouais. Donc, il y a des moments d'ennui où vous tuez l'ennui, comme on dit, sur le téléphone, c'est ça?
Exactement. Oui. Quand il n'y a pas assez de clients, je suis tout le temps dans mon téléphone, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, je trouve un temps libre, C'est mon téléphone, je prends.
C'est votre seul loisir.
Donc, j'ai effectivement posé cette question sur le travail parce que dans notre métier, on cherche toujours les conséquences. Et donc là, on va parler des conséquences physiques, puisque c'est une des questions que pose Rigobert. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait maintenu quand même une activité professionnelle, pour moi, c'est quand même important. Mmh. Ce que je crains par-dessus tout, c'est des personnes qui ne sortent plus de chez eux, qui hibernent à vie dans leur chambre en ayant le seul lien avec le monde, c'est cette espèce de lueur blafarde de l'écran et cette espèce de réseau Internet qui se promène partout et nulle part. Là, quand on sort de chez soi, pour moi, c'est un critère quand même un peu favorable. Par contre, c'est vrai que vous interrogez aussi les conséquences physiques. Le fait d'être jeune, hein, comme vous dites, oui, si on constate que, année après année, la personne est repliée sur son téléphone. On voit la position, d'ailleurs. C'est un peu une position, les épaules basses, la tête penchée en avant, les coudes fléchis, les pouces qui bougent et les yeux qui doivent s'habituer en permanence à des lumières différentes. Oui, ça a des conséquences. Le fait est que les zones du cerveau qui travaillent ne sont pas les mêmes que celles qui travaillent dans d'autres circonstances, dans les relations avec les autres, dans le sport, dans le travail. Donc, on peut s'appauvrir sur le plan mental et psychique. Il y a des bouquins qui disent ça très bien, hein, à quel point ça peut fabriquer, comme disait, je ne sais plus qui, des crétins digitaux. Mm-hmm. C'est un terme un peu fort qui avait été employé. Michel Desmeugé, voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que sur le plan physique aussi, ça pose un problème avec baisse de la force musculaire, baisse des raideurs articulaires, des raideurs cervicales. Oui, vous devez faire attention à vous, clairement.
Donc, la santé peut en payer les conséquences. On remercie beaucoup Rigobert, hein, pour son témoignage. On vous souhaite une excellente journée au Bénin. On va tout de suite partir pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Retrouvez le docteur Félicien Ntoné, psychiatre des hôpitaux au Cameroun, directeur général adjoint du CHU de Yaoundé. Addiction, usage excessif des écrans. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, qui est visible dans votre pays, le Cameroun, docteur?
Écoutez, Madame Paré, c'est un phénomène visible, mais qui ne s'est pas présenté d'emblée comme une addiction, tant il est vrai, ça a été une proposition de la société pour rompre la fracture numérique, une société en développement. Mmh. Ces phénomènes, ces outils sont arrivés comme des éléments de développement. Et à ce moment, ça a été vulgarisé à un point où il fallait à tout prix que dans le milieu académique, le milieu scolaire, le milieu scientifique, le milieu de tous les jours, que chaque Camerounais soit doté d'un outil pour réduire la fracture numérique. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir d'un deal, on a fait un deal d'une substance addictive, l'addiction est en train de s'installer sans qu'on s'en rende compte. Ce qui est vrai, c'est que les Camerounais passent de plus en plus de temps sur leur outil, mais sur le plan de la santé publique, il y a très peu d'éléments qui amènent à percevoir. Mmh. En clinique, contrairement au docteur Poudy qui est en plein sur le terrain, en clinique, j'ai plutôt eu des conflits dans le style de l'échec scolaire. Mmh. Ils ont mis en évidence la force de l'appréhension du temps d'écran. J'ai eu des conflits interpersonnels dans des couples où la personne prouvait que l'autre avait plus de temps sur l'écran, ou alors j'ai eu des souffrances psychologiques parce que après avoir perdu son téléphone, qui est très moderne, qui a un certain nombre de compétences et qui met la personne en interaction avec la société, la perte de cet objet dépassait le traumatisme du vol et le mettait en privation de ses plaisirs de tous les jours. À ce moment, il y avait l'expression d'un manque qui s'installait comme dans l'addiction. C'est pour dire que ces éléments sont présents. Et moi, clinicien, je perçois l'addiction qui s'installe. Et le temps de passage sur l'écran est de plus en plus élevé lorsque j'évalue mes patients, mais sans que la société ne perçoive ça comme un problème de santé.
Vous prenez en charge, on va dire plutôt, les conséquences. Vous êtes également, docteur Ntone, consultant à l'OMS en santé mentale, l'Organisation mondiale de la santé, qui est en phase de reconnaître vraiment ces addictions aux écrans comme des maladies à proprement parler. C'est un sentiment que vous partagez ou vous trouvez que c'est allé un peu vite ?
Ben, je me rends d'ailleurs compte que sur le plan de la santé mentale au Cameroun, c'est des pathologies d'avenir, ou alors déjà là, mais encore non élucidées. Et je profite de cette antenne pour attirer l'attention des pays comme le Cameroun, qui, tout en étant confrontés à des objets ergonomiques attractifs qui appellent la convivialité, tant il est vrai, ces Camerounais se connectent entre eux. Il y a même des aspects, mais peut-être que le docteur Poloni va le dire, il y a des aspects de voyeurisme, c'est-à-dire qu'on accède à la vie privée de l'autre par ces moyens. Il y a même des aspects d'exhibition. Il y a un plaisir de se montrer. Le nombre de temps que mes patients passent sur le statut pour regarder ce que l'autre a fait est impressionnant. Et on a aussi l'impression qu'une chose qui était interdite dans nos sociétés avant, c'est-à-dire aller voir chez l'autre, a été autorisé par l'arrivée de ces nouveaux appareils. Donc je pense qu'il est temps que nous, travailleurs en santé mentale, nous commencions à sensibiliser. Alors, je voudrais vous dire rapidement que si les enfants, parce que je suis pédopsychiatre, sont de plus en plus attirés par ces objets, nous, au Cameroun, nous les pensions plutôt des enfants éveillés. Et on était plutôt portés, les parents, à féliciter ces enfants.
Absolument, je voulais vous poser une question sur ce point précis. C'est bien sûr, chez les enfants, limiter l'accès, mais peut-être surtout éduquer les parents.
Mais c'est-à-dire que le parent, déjà en addiction, a la faiblesse d'avoir l'autorité d'interdire à son enfant. C'est comme un toxicomane à la drogue. Docteur Poloni pourrait y revenir. Une fois en addiction au tabac, c'est très difficile de dire à votre fils de ne pas fumer. Une fois en addiction à l'héroïne ou au cannabis, c'est la même chose. On voit comment ces outils progressivement sont arrivés. Certains parents avaient interdit qu'il n'y aura pas de PlayStation dans leur maison. Mais comme les enfants allaient chez le voisin, ils ont baissé la garde. Mais parfois, on retrouve d'ailleurs des parents qui sont en train de jouer avec leurs enfants. Le côté ludique est là, c'est vrai. Le côté attractif est là. La modernité au téléphone, la dernière parution du téléphone des sociétés occidentales, qui nous met parfois sous forme d'une référence sociale à la modernité, ça nous permet de travailler. Avec le Covid, on a pu faire des enseignements en ligne grâce à ça. Quelle est la place de l'addiction?
Où est le bon, où est le mauvais? Mais en tout cas, il y a peut-être une interrogation aussi. Justement, vous disiez des parents qui jouent avec les enfants. À partir du moment où il y a participation d'un tiers, on va quand même avoir une approche différente. On imagine, si on regarde un film avec un petit en commentant ce qui se passe, en en parlant après, en ayant justement un lien social et un espace de débat, on va dire que l'offre n'est pas tout à fait la même.
Tout à fait. Mais sur le plan, et le docteur le disait tout à l'heure, sur le plan neurobiologique, que ce soit le parent ou l'enfant qui jouent ensemble, ils ont la même recherche de la récompense avec ce côté irrépressible. Et à force de répéter l'acte, on ne peut plus évaluer la quantité de dopamine qui est sécrétée dans ce mouvement. Et je pense quand même qu'il y a un problème sévère que la santé publique doit interroger. Il a l'air insidieux. Et il risque, d'ailleurs, il a dit aussi le docteur, ça rapporte de l'argent, des devises, et c'est une force très importante, une pression sur la société. On présente des objets attractifs, séduisants, dont accrocheurs, alors que sous-jacent, il y a l'installation d'une addiction qui va créer un esclavage. Moi, je vois dans les églises, les gens disent d'éteindre le curé, ils disent d'éteindre le téléphone, parce que pendant l'évangile, les gens, ils sont en train de zapper pour voir peut-être le dernier message, la dernière parution. Et ce côté voyeur interpelle le psychiatre, ce côté se montrer à l'autre, et parfois d'ailleurs, dans l'exhibition du nu de l'autre, pour dire que des choses interdites à l'époque dans notre société camerounaise sont permises par le cruchement de ces objets. C'est comme si on regardait à travers la serrure. Donc on voit des choses qu'on n'aurait pas dû voir dans d'autres circonstances, et c'est excitant. Et quand c'est excitant, c'est parce que ça sécrète de la dopamine, on se sent dans le plaisir. Je crois qu'il faut attirer l'attention des Camerounais et attirer l'attention de la société africaine qui est en train de rentrer dans ce processus sur le piège.
La dimension de vulnérabilité. On vous remercie beaucoup pour votre éclairage, docteur Félicien Tonnet. Très bonne journée à Yaoundé. Avant de nous laisser, docteur Pierre Polomeni, j'aimerais qu'on aborde une question sur laquelle on n'a pas pris forcément beaucoup de temps, c'est en particulier les enfants. C'est vrai que beaucoup d'auditeurs sont à la recherche de méthodes, de recettes, de règles. C'est dire que pour les enfants, il y a des limites à fixer qui sont absolument essentielles.
Oui. D'abord, un mot pour remercier réellement mon collègue de son intervention avec deux points très importants que je n'avais pas évoqués. C'est l'aspect positif, effectivement, d'Internet, qui est aussi outil de développement et de savoir.
Et éducatif, absolument. Voilà.
Et deuxièmement, ces deux aspects qu'il a évoqués qui étaient l'exhibitionnisme et le voyeurisme, qui sont extrêmement intéressants.
Et qu'on voit notamment avec le harcèlement, la gravité, la vulnérabilité de la chose.
Voilà. Donc je le remercie beaucoup d'avoir pointé ces aspects-là. Oui, sur le plan des enfants, j'ai deux visions de ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les difficultés chez les jeunes de 13 ans, 17 ans, ou chez les gens 25 ans, 30 ans, etc. Et qu'est-ce qu'on peut continuer à essayer de valider, de baliser comme système de référence pour les plus jeunes. Et quand même, ça fait quelques années qu'on dit pas d'écran avant 3 ans, attention Internet avant 6 ans, accompagner les enfants, partager avec eux, essayer de favoriser un développement harmonieux, etc., etc. Le problème, c'est que on sait ça. Et là, même quand je vois des adolescents à 15 ans en grande difficulté, je vois les parents, on travaille avec les parents, on leur dit le cadre est important.
La disponibilité.
Monsieur. D'abord le cadre et la disponibilité. Mmh. Voilà. C'est les deux aspects. Un jeune est venu me voir une fois, deux fois, il m'a dit « Pourriez-vous dire à ma mère que depuis que je la vois plus, je suis tenté de jouer ?» Donc il y a le cadre, la disponibilité. Ça se sait. Ma question que je me pose moi, mais en même temps j'ai quelques réponses, c'est pourquoi on ne sait pas mieux faire ? Pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on sait devoir être utile pour nos enfants, pour le futur de nos enfants et de la société ?
C'est une grande question, il faudrait une autre émission pour y répondre, on n'a pas le temps. On vous remercie infiniment pour toutes ces réponses, docteur Polomeni. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue, responsable du Centre Phoenix Mel de Genève. L'activité physique, c'est bon pour la santé, on le prouve tout de suite en votre compagnie. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport, aujourd'hui docteur Sen, vous allez nous parler d'un paramètre physiologique souvent mesuré lorsque l'on fait du sport, il s'agit de la fréquence cardiaque.
Et oui, absolument, le rythme cardiaque ou la fréquence cardiaque, bon, c'est le nombre de battements de cœur par minute. Vous l'avez remarqué Caroline, quand vous faites du sport, le rythme cardiaque augmente. Ça c'est pour permettre justement à l'oxygène de circuler en plus grande quantité et d'approvisionner tous nos muscles. Et il faut savoir que ce rythme cardiaque, justement, évolue avec l'entraînement. Plus on fait de l'exercice, eh bien, plus le cœur devient efficace, de sorte que on peut augmenter cette durée et l'intensité de l'entraînement, et pour un même effort, eh bien, le rythme cardiaque, lui, sera plus faible, moins important, parce que, justement, le cœur est plus efficace. Sur le plan vasculaire aussi, il y a des modifications qu'il faut identifier. C'est la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins. Et tout ça, ça conduit à une baisse de la tension artérielle chez les personnes qui s'entraînent régulièrement, d'où l'intérêt justement de l'exercice physique pour lutter par exemple contre l'hypertension artérielle.
Et cette fréquence cardiaque, eh bien, elle n'est pas la même pour tout le monde.
Eh bien non, ce serait trop simple, car chaque cœur humain est unique, chaque petit cœur est unique. Nous disposons tous d'une fréquence cardiaque qui nous est propre. Alors, on peut quelquefois essayer de déterminer, il y a une formule très connue pour essayer de connaître notre fréquence cardiaque maximum, qui est le 220 moins l'âge. On prend le chiffre 220, on retire son âge et ça nous donne notre fréquence maximale cardiaque théorique. Alors ça, faut savoir que c'est une moyenne, il y a une dispersion, c'est-à-dire c'est plus ou moins 20. Donc ça ne marche pas pour tout le monde. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de paramètres qui vont faire varier justement la fréquence cardiaque, comme l'âge, bon d'abord évidemment, l'altitude, la condition physique, selon ce que l'on a mangé, l'alimentation, la température, mais sa propre température, mais la température extérieure aussi, selon l'humidité, la pression atmosphérique, enfin bref, il y a énormément de facteurs qui vont faire évoluer cette fréquence cardiaque. Donc elle est certes facile à mesurer, mais elle peut beaucoup varier d'un individu à l'autre. Ainsi, le fait de mesurer la fréquence cardiaque n'est pas en soi un indicateur de ses capacités physiques. Sauf si on compare cette fréquence cardiaque avant et après une période d'entraînement. Et donc, pour la mesurer, il faudra essayer de les mesurer dans les mêmes conditions pour justement mettre de côté tous ces paramètres qui la font varier.
Alors, comment connaître sa fréquence cardiaque normale ?
Le mieux, c'est de mesurer sa fréquence cardiaque au repos, donc dans les mêmes conditions. Par exemple, le dimanche matin, on mesure sa fréquence cardiaque au lever. Il faut savoir que ça, la fréquence varie selon l'âge. Par exemple, c'est autour de 120 pulsations par minute pour les bébés, 100 pour les enfants, les adolescents 80, adultes 70, personnes âgées 65. Il s'agit encore là de moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça varie d'un individu à l'autre. Et puis, il faut savoir que quelquefois, la fréquence cardiaque n'est pas normale. Par exemple, si on a une tachycardie, tout le monde sait ce que c'est quand le cœur bat trop vite, c'est si on fait plus de 100 pulsations par minute chez un adulte au repos. La bradycardie, c'est l'inverse, c'est quand le pouls est trop lent, moins de 50 pulsations par minute chez un non-sportif au repos. Et puis, quelquefois, il peut y avoir aussi des troubles du rythme, c'est quand les battements du cœur sont irréguliers. À ce moment-là, il ne faut vraiment pas hésiter de faire un électrocardiogramme et un bilan cardiologique pour pouvoir analyser ces troubles. Alors, comment mesurer sa fréquence cardiaque ? Eh bien, ça peut se faire assez facilement. On utilise, il y a les tensiomètres, quelquefois portables, qui sont tout à fait fonctionnels. On peut utiliser aussi des montres connectées ou des cardiofréquencemètres qui sont intéressantes. Et puis enfin, on peut l'utiliser manuellement. On prend son pouls au niveau du poignet, par exemple avec l'index et le majeur. On va sentir son pouls battre. On compte le nombre de pulsations sur 30 secondes. On multiplie par 2. Et on a le nombre de battements par minute. Voilà. Et donc ça, c'est relativement simple. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs écouteront mieux battre leur petit cœur.
Au bon rythme avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Merci beaucoup. Et tous ces chroniques, vos conseils, on les retrouve sur votre blog, jeanmarcsen.com. Jean-Marc Sen en minuscule et tout attaché. À très bientôt. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louise Calédec, Raphaël Plusqueva, Didier Bleu, Laurence Snow. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance, qui en cas de décès, met à l'abri vos proches de tout besoin financier. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question.